Le livre de Daniel, numéro 20. Daniel et l'Apocalypse. Dévoilement de la trame prophétique de l'essor et du déclin des royaumes.
Sir White souligne souvent que les leçons prophétiques, qu'il est nécessaire de comprendre, sont illustrées par l'essor et le déclin des royaumes.
De l'essor et de la chute des nations, telles qu'elles sont clairement exposées dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, nous devons apprendre combien la gloire purement extérieure et mondaine est vaine. Babylone, avec toute sa puissance et sa magnificence, telle que notre monde n'en a pu jamais contempler, puissance et magnificence qui, aux yeux des gens d'alors, semblaient si stables et durables, comme elle a complètement disparu. Comme la fleur de l'herbe, elle a péri. Jacques 1:10. Ainsi a péri le royaume Médo-Perse et les royaumes de la Grèce et de Rome. Et ainsi périt tout ce qui n'a pas Dieu pour fondement. Seul ce qui est lié à son dessein et exprime son caractère peut durer. Ces principes sont les seules réalités immuables que connaisse notre monde. Prophète et roi, 548.
L'ascension et la chute des royaumes représentés dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont au cœur d'une approche correcte de l'étude de la prophétie. La chute de Babylone est préfigurée par la chute de Babel, la ville de Nimrod, au chapitre 11 de la Genèse. Puis, au chapitre 5 de Daniel, Babylone tombe de nouveau. L'histoire de la papauté, de son accession au pouvoir en 538 et de sa chute ultérieure en 1798, préfigure également la chute finale de Babylone, car, prophétiquement, le pouvoir papal est la Babylone spirituelle. La papauté est tombée en 1798 et le chapitre 18 de l'Apocalypse en décrit la chute finale. Dans Daniel, chapitre 11, verset 45, la papauté, représentée là comme le roi du Nord, arrive à sa fin sans que personne ne lui vienne en aide. Cela a lieu lorsque le temps de grâce prend fin, car le verset 45 du chapitre 11 et le verset 1 du chapitre 12 décrivent la même histoire.
Il dressera les tentes de son palais entre les mers, sur la montagne sainte et glorieuse. Mais il arrivera à sa fin et personne ne lui viendra en aide. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, celui qui se tient pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Daniel 11, 45, 12, 1.
Le message du deuxième ange s'appuie sur le fait que Babylone est tombée deux fois. La Babylone littérale, représentée par Nimrod et Belshazzar, est tombée deux fois. Et la Babylone spirituelle est tombée en 1798 et tombera de nouveau lorsque le temps de probation de l'humanité prendra fin.
Et un autre ange suivit, disant « elle est tombée, Babylone, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa fornication. » Apocalypse 14, 8.
La répétition de la chute de Babylone dans le message du second ange fournit la justification prophétique pour identifier le redoublement de mots et d'expressions dans les Écritures comme un symbole des messages combinés du second ange et du cri de minuit. Elle confirme également le principe identifié par Sir White, selon lequel l'étude de la prophétie repose sur la montée et la chute des royaumes représentés dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Elle illustre l'idée que, pour comprendre la chute de Babylone, l'étudiant de la prophétie doit rassembler toutes les chutes de Babylone ligne sur ligne, afin d'établir le message prophétique juste de la chute finale de Babylone. Le fait que Babylone tombe deux fois dans le message du second ange repose sur la règle prophétique selon laquelle la vérité est établie sur le témoignage de deux témoins. Le doublement de la chute de Babylone dans ce message représente la méthodologie prophétique que la Bible identifie comme la pluie de l'arrière-saison. Cette méthodologie sacrée, qui est la pluie de l'arrière-saison, consiste à rassembler diverses lignes de prophétie ligne sur ligne. Lorsqu'elle est employée par l'étudiant de la prophétie, cette méthodologie établit le message de la pluie de l'arrière-saison. Le message de la pluie de l'arrière-saison, établi par l'application de la méthodologie sacrée, est ensuite proclamé dans les histoires prophétiques combinées du second ange et du cri de minuit. Cela fut vrai dans l'histoire du mouvement du premier ange, et cela est vrai aujourd'hui dans l'histoire du mouvement du troisième ange. Les chapitres 4 et 5 du livre de Daniel représentent la ligne historique qui couvre l'ascension et le commencement de Babylone, représentée par Nabuchodonosor au chapitre 4, puis la chute et la fin de Babylone, représentée par Belshazzar au chapitre 5. Ensemble, ils produisent une seule ligne prophétique. La ligne prophétique produite par ces deux chapitres doit être superposée aux chapitres 1 à 3 de Daniel, afin d'établir le message de la pluie de l'arrière-saison. Les deux chapitres présentent la chute et le relèvement de Nabuchodonosor, ainsi que la chute et la destruction de Belshazzar. il présente donc la chute de Babylone au début et à la fin de la ligne. La ligne de prophétie créée par ces deux chapitres est structurée sur Babylone qui tombe, se relève, puis retombe. Ce fait à lui seul indique que ces deux chapitres représentent le message du deuxième ange. Les deux chapitres représentent l'histoire de la bête qui monte de la terre d'Apocalypse 13. Et dans cette histoire, le message du deuxième ange et le cri de minuit sont proclamés deux fois. Par conséquent, avant de commencer notre étude des chapitres 4 et 5 de Daniel, nous identifierons la méthodologie sacrée, qui est la pluie de l'arrière-saison. Puis, en employant cette méthodologie, nous identifierons le message de la pluie de l'arrière-saison. Un jalon significatif de l'histoire du premier et du deuxième ange était la méthodologie représentée par les règles d'interprétation prophétique de William Miller. Ces règles ont été utilisées par des hommes pour identifier le message du cri de minuit, et ce message constituait la pluie de l'arrière-saison pour cette histoire. Un jalon significatif de l'histoire du troisième ange est la méthodologie présentée sous le nom de clé prophétique. Ces règles doivent être utilisées conjointement avec les règles de William Miller pour identifier le message du cri de minuit dans notre histoire actuelle. Et le message qui est maintenant établi par ces règles est le message de la pluie de l'arrière-saison des derniers jours. Les règles de Miller représentent la pluie de la première saison dans l'histoire prophétique de la bête de la terre. Et ces règles, combinées aux clés prophétiques, représentent la pluie de l'arrière-saison dans l'histoire prophétique de la bête de la terre. La pluie de l'arrière-saison est la méthodologie employée pour produire le message. Certains sont trompés parce qu'ils recherchent l'expérience de la pluie de l'arrière-saison sans rechercher d'abord le message qui produit cette expérience. Les églises pentecôtistes du christianisme sont un exemple clair de cette tromperie. Ce même type d'orientation erronée se retrouve aussi chez ceux qui, eux, recherchent le message de la pluie de l'arrière-saison, mais refusent de rechercher la méthodologie qui identifie et établit ce message. Sans la bonne méthodologie, le bon message ne peut être identifié. Sans le bon message, la bonne expérience est impossible. La portée de ce fait biblique passe inaperçue aux yeux de la plupart, car ils n'ont jamais envisagé la possibilité qu'il existe une seule bonne manière d'étudier la Bible et qu'il existe de nombreuses mauvaises manières de l'étudier. La mauvaise manière d'étudier la Bible, celle qui est de loin la plus souvent choisie, consiste à se fier aux opinions d'autres hommes sur ce que la Bible enseigne. C'est un problème si répandu chez les hommes que chaque Église organise un système pour répondre à ce besoin faussement perçu de ses fidèles. Ce besoin illusoire engendre l'entreprise fallacieuse d'établir un système de dirigeants désignés comme les experts spirituels de la compréhension biblique, censés orienter correctement la compréhension du troupeau non instruit. La Bible décrit bien un système très organisé pour la structure d'une église, qui inclut des anciens, des prophètes et des enseignants. Mais la Bible ne cautionne jamais la corruption de l'organisation de l'église qui produit un système de dirigeants ordonnés pour déterminer ce qui est ou n'est pas la vérité, et ensuite qui est ou n'est pas hérétique.
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier approuvé, qui n'a pas à rougir, maniant avec droiture la parole de la vérité. 2 Timothée 2,15.
Un responsable d'église doit exhorter, reprendre, enseigner et se garder des fausses doctrines et de ceux qui les propagent. Mais chacun de nous doit étudier pour se montrer, approuvé par Dieu, en exposant correctement la parole de vérité. Ce faisant, nous devons connaître la méthode que la Bible identifie comme la bonne manière d'exposer correctement la parole de vérité. Le livre d'Ésaïe présente ces questions dans le contexte de la pluie tardive. C'est donc là que nous commencerons.
En ce jour-là, l'Éternel, avec son épée dure, grande et forte, châtiera le Léviathan, le serpent fuyard, oui, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez, vigne au vin vermeil. Moi, l'Éternel, je la garde, je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne la blesse, je la garde nuit et jour. Point de fureur en moi, qui me dressera des ronces et des épines pour la bataille? J'y marcherai, je les brûlerai tout ensemble. Ou bien qu'il s'empare de ma force, afin qu'il fasse la paix avec moi. Et il fera la paix avec moi. Il fera que la descendance de Jacob prenne racine. Israël fleurira et bourgeonnera, et remplira la face du monde de fruits. L'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? A-t-il été mis à mort selon la tuerie de ceux qui ont été tués par lui? Avec mesure, quand elle pousse, tu plaideras avec elle. Il retient son vent rude au jour du vent d'Orient. C'est par là que l'iniquité de Jacob sera rafraîchie, et voici tout le fruit. Ôtez son péché. Lorsqu'il rendra toutes les pierres de l'autel comme des pierres à chaux brisées, les bosquets et les idoles ne se relèveront plus. Cependant, la ville fortifiée sera déserte, l'habitation abandonnée, laissée comme un désert. Là le veau paîtra, là il se couchera, et il consumera ses rameaux. Quand ces rameaux seront desséchés, on les rompra. Des femmes viendront et y mettront le feu, car c'est un peuple sans intelligence. Aussi, celui qui l'a fait n'aura pas compassion de lui, et celui qui l'a formé ne lui montrera aucune faveur. Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel battra les épis, depuis le lit du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez rassemblés un à un, ô enfants des Israël. Et il arrivera en ce jour-là qu'on sonnera de la grande trompette, et viendront ceux qui étaient prêts à périr au pays d'Assyrie, et les exilés au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ésaïe 27, 1, 13.
Dans les articles précédents, nous avons à plusieurs reprises abordé étendard qui est dressé pour appeler les autres enfants de Dieu à sortir de Babylone. Le dernier verset du chapitre 27 d'Ésaïe traite de l'œuvre de cet étendard lorsqu'il dit « La grande trompette sonnera et viendront ceux qui étaient prêts à périr dans le pays d'Assyrie ». L'Assyrie symbolise Babylone dans les derniers jours. Et ceux qui entendent dans ce verset le message d'avertissement de sortir de Babylone viennent adorer avec ceux qui sont représentés comme les 144 000 qui sont prophétiquement situés sur la montagne sainte à Jérusalem. Le verset dit « Et il arrivera en ce jour-là ». Ce jour-là, qui est le jour où la seconde voix du chapitre 18 de l'Apocalypse appelle les autres enfants de Dieu à sortir de Babylone, constitue le cadre de tout le chapitre. La seconde voix du chapitre 18 de l'Apocalypse crie au moment de la loi du dimanche, quand la prostituée de Tyr est rappelée.
« Et j'entendis une autre voix du ciel, disant, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses fléaux. Car ses péchés ont atteint jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, 4, 5.
Le chapitre 27 d'Ésaïe commence par désigner le même jour que celui avec lequel il s'achève, lorsqu'il dit « En ce jour-là, le Seigneur, avec son épée dure, grande et forte, punira le Léviathan, le serpent fuyant, même le Léviathan, ce serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. » Au moment de la loi du dimanche, le jugement exécutif et rétributif de Dieu commence à s'exercer sur les royaumes du dragon, les Nations unies, de la bête, la papauté, et du faux prophète, les États-Unis. Au moment de la loi du dimanche, le faux prophète était renversé en tant que sixième royaume de la prophétie biblique et l'apostasie nationale produit la ruine nationale. La loi du dimanche est le moment où les jugements exécutifs de Dieu commencent à s'abattre sur le dragon, qui est Satan, et dont le royaume terrestre est représenté sous la figure du dragon. La bête est le faux prophète. Il s'agit d'un châtiment progressif qui commence au moment de la loi du dimanche. Le début et la fin du chapitre 27 d'Ésaïe concernent la loi du dimanche, et le chapitre présente des questions spécifiques directement liées à l'histoire qui mène à la loi du dimanche et à celle qui la suit. Nous examinons le chapitre 27, car il établit le cadre prophétique pour les chapitres 28 et 29. Dans ces chapitres, nous trouverons la définition de la pluie tardive comme méthodologie, ce qui nous permettra de comprendre la signification du fait de superposer les chapitres 4 et 5 de Daniel au chapitre 1 à 3 de Daniel. Après que le chapitre 27 d'Ésaïe a identifié le début du châtiment progressif du royaume du dragon, il rapporte que, durant cette période, le peuple de Dieu reçoit l'ordre de « chanter pour elle ». Chanter pour qui ? La réponse à la question de savoir à qui l'on doit chanter se trouve dans le titre du chant, car ils doivent chanter une vigne de vin rouge que le Seigneur garde. L'histoire de la vigne est l'histoire du peuple de Dieu, et elle est mentionnée pour la première fois par Ésaïe au chapitre 5.
« Je chanterai maintenant pour mon bien-aimé, un cantique de mon bien-aimé au sujet de sa vigne. Mon bien-aimé a une vigne sur un coteau très fertile. Il l'entoura d'une haie, en ôta les pierres, y planta des ceps de choix, bâtit une tour au milieu d'elle et y fit aussi un pressoir. Il en attendait de bons raisins, mais elle donna des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, je vous prie, jugez entre moi et ma vigne. Que pouvait-on faire de plus à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, lorsque j'attendais qu'elle produise de bons raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages? Et maintenant, eh bien, je vous dirai ce que je ferai à ma vigne. J'en ôterai la haie, et elle sera dévorée. J'abattrai son mur et elle sera foulée aux pieds. Je la réduirai en désolation. On ne la taillera plus, on ne la bêchera plus. Mais il y montra des ronces et des épines. Je commanderai aussi aux nuages de ne plus laisser tomber la pluie sur elle. Car la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda sont son plan agréable. Il attendait le jugement, et voici l'oppression. la justice, et voici un cri. Ésaïe 5, 1, 5.
Dans l'histoire de la crise de la loi du dimanche, le peuple de Dieu doit chanter au peuple de Dieu le cantique de la vigne. Car le cantique dit « Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. » Le cantique de la vigne est le cantique qui identifie le rejet d'un ancien peuple d'alliance, tandis que Dieu entre en alliance en queue matheux avec ceux dont Pierre dit qu'autrefois, ils n'étaient pas un peuple, mais maintenant, ils sont le peuple de Dieu. Il y est indiqué qu'il n'y a aucune pluie n'est tombée sur la vigne, identifiant ainsi l'œuvre d'Élie qui vient durant cette période et qui seule peut faire tomber la pluie pendant ce temps. Nous savons que ce cantique parle du rejet d'un peuple d'alliance, car le cantique de la vigne a été chanté par Christ à l'Israël ancien, à l'époque où l'Israël ancien était mis de côté, tandis que Dieu entrait simultanément en alliance avec l'Israël spirituel et tuerait Léa.
Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit pour un pays lointain. Et, quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et en lapidèrent un troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de la même manière. Enfin, il leur envoya son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le. Et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui dirent, « Il fera périr misérablement ses méchants, et il louera sa vigne à d'autres vignerons, qui lui en rendront les fruits en leur saison. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur. » Et elle est merveilleuse à nos yeux? C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, mais celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux prêtres et les pharisiens comprirent qu'il parlait d'eux. Matthieu 21, 33, 45.
Quand Jésus chanta le cantique de la vigne de Dieu à l'ancien Israël, ils furent tellement saisis par la logique et la force du message que, lorsque Jésus demanda aux Juifs qui ergotaient ce que ferait le maître de la vigne à ceux qui avaient tué le Fils, ils ne purent que donner la bonne réponse en disant « Il fera périr misérablement ses méchants et il louera sa vigne à d'autres vignerons, qui lui rendront les fruits en leur saison. » Jésus ajouta aussitôt un autre couplet au chant lorsqu'il chanta au sujet de la pierre rejetée, et il rassembla leurs réponses dans la strophe finale en déclarant « C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera ôté et donné à une nation qui en produira les fruits. Et quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, mais celui sur qui elle tombera, elle le réduira en poudre. » L'expression « le réduire en poudre » fait écho à Ésaïe 27, qui fait de toutes les pierres de l'autel des pierres de chaux mises en pièces. Les bosquets et les images ne se dresseront pas. Les deux renvoient à l'œuvre de réveil accomplie par Josias, qui symbolisait ceux des derniers jours qui redécouvrent les sept temps, lesquels sont la pierre d'achoppement qui écrase ceux qui refusent de la tenir pour précieuse. À au jour de la loi du dimanche, comme le représente le chapitre 27 d'Ésaïe, ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple doivent chanter le cantique de la vigne du Seigneur, au vin rouge. Ces articles ont souvent souligné qu'il n'y a pas de troisième message sans un premier et un deuxième message. La loi du dimanche est le troisième message, et le jour de la loi du dimanche inclut l'histoire des premiers et deuxièmes messages. Dans le chapitre 27 d'Ésaïe, la loi du dimanche identifie la période représentée dans Daniel chapitre 1, puis de nouveau dans Daniel chapitre 1 à 3. Prophétiquement, le jour de la loi du dimanche au chapitre 27 identifie l'histoire du 11 septembre 2001, à partir du moment où le premier message a été renforcé et jusqu'à la loi du dimanche imminente. Nous poursuivrons notre réflexion sur le cantique que les rachetés doivent proclamer à l'approche du moment où la prostituée de Rome commencera à entonner son chant dans le prochain article.
Je regardais, et voici, un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000, ayant le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel comme la voix de grandes eaux et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis la voix des harpistes jouant de leurs harpes. Et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre animaux et les anciens. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique sinon les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices de Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Apocalypse 14:1-15.